sur ce qu'elles disent réellement. Seigneur, parle-nous, montre-nous ce que tu veux nous montrer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc justement, l'anecdote d'introduction, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a peut-être même quelques mois, il y a eu à l'Amitié judéo-chrétienne une conférence tenue par un certain Dan Jaffe, qui est un historien israélien, spécialisé dans la période qui suit la venue de Jésus. Donc, même dans le judaïsme, c'est reconnu que Jésus est né. Leur conception, bien sûr, sur sa personne diffère. Mais il y a un spécialiste historien qui est venu. Alors, il a dit des choses très intéressantes en tant qu'historien. Il montre que dans le judaïsme, il y a plein de conceptions différentes sur l'idée du Messie. Mais sa pensée, ce que j'ai retenu principalement, c'est de dire que la pensée messianique ou l'aspiration à la venue du Messie était liée à des périodes de persécution aiguë, on va dire. Donc voilà, donc ce qui voulait dire que le Messie, bon, on n'arrivait pas à savoir si ça voulait dire que la pensée était développée ou propagée à cet instant-là ou si elle était apparue par ça. Donc c'était ça un peu la question soulevée. Il nous a parlé de son rapport au mouvement Lubavitch, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler. En revanche, à un moment donné, j'ai posé une petite question. Puisqu'il était plutôt dans les textes extra-bibliques, je lui ai demandé, est-ce que dans une certaine période dont on avait parlé, il y avait d'autres textes extra-bibliques ? Et ce qui est amusant, j'aime bien, parce que des fois, les incompréhensions accouchent de quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'a pas compris ma question. Il a cru que je disais, est-ce que dans la période avant Jésus, il y a des textes dans la Torah ? Je ne sais pas comment il a compris, mais est-ce que dans la Torah, dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des choses, puisque lui parlait de textes externes, il a cru que je voulais renvoyer plutôt à la Bible. Et il a commencé à répondre par rapport à la Bible. J'ai voulu faire dire que ce n'était pas ma question, mais finalement, je me suis dit, c'est intéressant qu'il aborde cette question-là. Et sa réponse, c'était oui, il y a peut-être, après hésitation, peut-être deux textes, un dans Daniel et un dans Zacharie, qui y font référence. Donc moi, j'ai cherché les textes, effectivement, dans Daniel 9, 26, si, pour ceux qui ont besoin des références. Il est question d'un Messie qui sera retranché. Enfin, il y a tout un calcul mathématique sur quand il devait arriver. Enfin, et dans Zacharie 12, 10 aussi, une référence à celui qui a été percé. Donc effectivement, lui-même a reconnu ces deux textes-là pouvaient clairement être reconnus comme textes messianiques. Mais après, il a encore réfléchi, il a dit, en revanche, dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres, dans le Pentateuque, il n'y en a pas. Moi, je n'étais pas l'intervenant, j'avais quelques versets qui me venaient à l'esprit, que je vous partagerai. Je n'étais pas totalement d'accord avec lui, mais ce n'était pas moi j'étais pas là pour débattre, voilà, c'était lui l'intervenant. Et donc, il disait, non, dans la Torah, il n'y en a pas. On va voir. On va voir ce qu'il en est. Justement, on va parler de la Torah aussi. Déjà, juste pour clarifier ce que c'est le mot Messie. Je pense que la plupart d'entre nous le savons. Le Messie, le Mashiach en hébreu, le Christ dans le Nouveau Testament, ça signifie « oint ». Et en fait, l'onction, des fois, on se dit « l'onction, c'est parce que Dieu est sur nous ». Mais l'onction, c'était pour être roi. On était oint pour être roi ou sacrificateur ou le prophète. Donc, c'était les trois fonctions que l'onction semblait nous destiner. Pardon. Parfois, il y a des textes qui emploient ce même mot, par exemple, dans Ésaïe 45:1. Cyrus, mon oint. Et là, c'était un roi païen. Donc, ce n'était pas l'onction ni pour être roi sacrificateur ou prophète, c'était juste oint pour une mission toute particulière. Voilà. Donc, sinon, selon l'étude de M. Jaffé, il semblait y avoir seulement deux fois dans l'Ancien Testament le mot Mashiach, le mot, en dehors de ses utilisations hors Messie. Pour Jésus et pour le christianisme, c'est vu autrement. Luc 24, verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. C'est Jésus qui parle. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc c'est intéressant, parce que si vous le savez, c'est pour ça que je vais préciser aussi les mots. Quand on dit dans la Torah, c'est juste les premiers livres, les cinq premiers livres, le Pentateuque, le Tanakh, c'est le vrai nom, le vrai mot pour dire ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, les livres du judaïsme. Qu'est-ce que c'est Tanakh? C'est Torah, Nevi'im et Ketubim. La Torah, c'est le Pentateuque, ce que Jésus appelle la loi de Moïse. Après, il y a les prophètes, c'est les Ketubim. Et c'est ce que Jésus dit, les prophètes et les psaumes. Là, c'est le mot pour dire, comme on dirait un frigidaire pour un réfrigérateur, c'est un des mots pour les livres dits de connaissance, enfin la sagesse, comme il y a les proverbes, ce qu'on a vu ce matin. Donc voilà, Jésus dit, non, pour lui, il est question de lui, le Messie, dans tout le Tanakh, loi, prophète et psaume. Donc maintenant, j'ai des origines juives, mon père était juif, ma mère était catholique, j'ai grandi plutôt dans le catholicisme, donc la question s'est posée pour moi, paradoxalement, après que je me sois vraiment tourné vers le Seigneur, vraiment vers le Messie, et que je redécouvre mes origines juives, et que je commence à raisonner comme si, paradoxalement, j'étais juif avec les réticences du judaïsme. Donc, je me suis un peu bagarré avec ça, et je voulais me convaincre, enfin, en tout cas, je voulais trouver des preuves que si, vraiment, on ne s'appuyait que sur l'Ancien Testament, est-ce que ça confirme réellement, ou est-ce que c'est les chrétiens qui ont utilisé un peu comme ils veulent les textes? Donc, je me suis posé, j'ai un peu cette tendance-là, d'essayer toujours de comprendre le point de vue de l'autre, comment l'autre arrive aux conclusions auxquelles il arrive, comment l'autre voit les choses. Donc, je me plaçais, oui. Alors, j'ai non seulement été juif, mais les apôtres étaient juifs. Enfin, bon, voilà, ça c'est. Mais effectivement, on est dans un terrain tout à fait juif. Donc, avec ce désir d'avoir des preuves, j'ai creusé la question. Et à la fois, comme je suis français, que j'ai une formation un peu critique, je remets en question même tous les arguments que je pourrais trouver. C'est-à-dire, en fait, en réalité, j'essaye, on ne l'est jamais totalement, mais d'être objectif, de me dire, oui, mais est-ce que l'autre, il va le comprendre comme ça? Est-ce que c'est une évidence? Donc j'ai classé, en fait, des textes en trois types d'affirmations. Il y a des choses qui vont parler du Messie préfiguré. Là, on est un peu dans l'idée d'allusion, d'image, objectivement discutable. On peut le voir comme ça, ou peut-être qu'avec un autre, le prenant par un autre angle, peut-être que je pourrais le voir autrement. Il faut reconnaître qu'il y a des versets qui ont pris d'une certaine manière ou pris d'une autre, on pourrait peut-être le voir autrement. Donc, c'est ça que je vais appeler le Messie préfiguré. Après, je trouve qu'il y a des prophéties, donc là c'est le Messie prophétisé, qui sont clairement, bibliquement, des choses qui nous amènent à dessiner la personne du Messie. On les verra, donc c'est le Messie prophétisé. Et la dernière question, c'est finalement si on croit, comme le croit le christianisme, que Jésus est éternel, qu'il est fils de Dieu, avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne s'incarne, avant qu'on... Il ne se révèle clairement aux yeux de l'humanité et du peuple juif. Il était où? Est-ce qu'il y a des textes dans le Tanakh qui nous le montrent déjà clairement? On va voir ça comme un troisième point. On appellera ça le Messie manifesté. Donc, Messie préfiguré, Messie prophétisé et Messie manifesté. Donc voilà. Messie préfiguré, des images, des allusions qui dessinent une réalité un peu en filigrane. C'est pas catégorique, c'est pas. On va voir, vous allez voir. En vous lisant ces versets, vous-même vous direz oui, c'est vrai, mais enfin, bon. Quelques premières allusions. Premier livre de la Bible, la Genèse. Mais c'est pour ça, quand Dan Jaffe disait non, il n'y en a pas dans la Torah, on va voir deux, trois textes. Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc c'est juste après la chute, « Puisque tu as fait cela, puisqu'il avait tenté, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, je mettrai, c'est là où ça devient ce qui nous concerne, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je sais bien que dans le milieu chrétien, on dit, ben voyez, c'est ça la croix. Et il écrase la tête du serpent, et puis le serpent lui blesse le talon, c'est Jésus-Christ à la croix qui meurt. On voit aussi, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Pourquoi la femme? Et là, avec ces deux affirmations, se dessine quand même quelque chose dans lequel je crois, mais que peut-être d'autres vont dire, ben non, c'est pas clair, enfin, toi et la femme, nous on va dire, ben la femme, la postérité de la femme, c'est qui? Normalement, on dit la postérité dans les généalogies de l'homme. Pourquoi de la femme? Petite première allusion à Marie. On verra ça après. Genèse 49, verset 10. Donc vous voyez, pour l'instant, je vous donne des choses qui ne sont peut-être pas totalement tranchées, indiscutables, mais quand même, avec ce faisceau de versets, on peut avancer. Genèse 49, 10, le sceptre, et pourtant Dan Jaffet a même cité ce verset, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alors, bien sûr, tout le monde, nous employons le mot Shiloh couramment dans la vie quotidienne. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce mot-là dans la... Qu'est-ce que c'est ce mot? Enfin, voilà. C'est un mot très spécifique, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, et que les peuples lui obéissent, on voit qu'il est la question de la venue de quelqu'un, et que les peuples, pas seulement Israël, mais les peuples vont lui obéir. Donc on a quand même là une allusion assez claire à un Messie. Nombre, chapitre 24, versets 15 à 17, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la... Bon, il avait vraiment... c'était un prophète, après. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Ça dessine quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer s'il ne s'agit pas d'un Messie lumineux, enfin, qui s'élève. Un sceptre, c'est l'idée de la royauté, un sceptre s'élève d'Israël. Je ne peux pas aller plus loin, verset par verset. Après, par l'exégèse, on pourrait approfondir les mots, le contexte, etc. Mais là, je vous donne plutôt une liste. Deutéronome. Donc là, jusqu'à maintenant, on est dans les cinq premiers livres. Hein. Donc de dire il n'y a rien, il y a quand même déjà des choses intéressantes. Deutéronome 18-18, ça c'est un verset très important pour la pensée messianique. Là, c'est Dieu qui parle. Deutéronome, c'est le renouvellement de la loi, deuxième loi. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Dieu parle à Moïse. Hein. Je leur susciterai, donc Israël, du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Même après, il est dit que si on ne lui obéit pas, on sera retranché. Bon, qu'est-ce que vous connaissez de ce verset? Est-ce que vous avez déjà discuté là-dessus? Ou est-ce que vous l'avez vu dans la Bible? Ou est-ce que vous avez déjà parlé avec des gens qui vous en ont parlé? Vous savez qui emploie ce verset très régulièrement? Des millions et des millions et des millions de gens sont enseignés sur ce verset. Le monde entier connaît ce verset-là. C'est les musulmans. Les musulmans disent que le prophète en question, c'est Jésus. C'est Mohamed, pardon. Eux disent ça. Alors quand je discute avec eux, sauf que là, il est dit du milieu de leurs frères. Oui, le peuple arabe est cousin par Ismaël, mais pas frère. Aujourd'hui, je verrais mal tous ceux du pourtour d'Israël venir vers les Juifs en disant « mon frère ». Voyez ? Pourtant, c'est bien une grande famille dans le lointain, mais frère, non. Ils ne se considèrent pas comme frères, et plus personne ne le dirait aujourd'hui. Donc, c'est bien quelqu'un d'Israël qui doit être un prophète comme toi, comme Moïse. Ça va loin quand même, un prophète comme toi. Donc, ce n'est pas un prophète parmi bien d'autres, c'est bien quelqu'un d'une importance phénoménale. Et Dieu lui donne des paroles, Jésus est venu, il a parlé, il a enseigné, c'est plus clairement pour moi de Jésus dont il est question. Puisque parmi nous, nous avons beaucoup d'amis chrétiens, on va plutôt que se pencher sur l'islam, je vous donne deux textes dans le livre des Actes qui reprennent ce verset. Donc des prédicateurs, le premier c'est l'apôtre Pierre, et le deuxième c'est Étienne. Que dit l'apôtre Pierre ? Acte 3, 22, Moïse a dit, le Seigneur, voilà, Moïse a dit, écoutez bien, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, c'est l'apôtre Pierre qui prêche. Il est question de Jésus, là. Pierre ne parle pas de Mahomet. Et discours d'Étienne, qui va se faire lapider, c'est ce Moïse, acte 7, 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc là, on a deux prédications du Nouveau Testament qui reprennent ce verset du Deutéronome, clairement, pour la personne de Jésus-Christ. Donc, pour moi, il n'y a pas, j'aime pas la photo, comme on dit, mais il n'y a pas de question. Le Nouveau Testament l'établit clairement, le contexte l'établit, et les mots employés dans ce verset-là l'établissent aussi. Donc, image. Donc là, on a vu des allusions. J'ai appelé ça des allusions, alors que déjà, ça va relativement loin. Des images. Alors, les images, il faut faire attention. Il y a des choses que le Nouveau Testament utilise vraiment comme image. Quand c'est le Nouveau Testament qui reprend l'image, on est sur un terrain sûr. On se dit, si le Nouveau Testament emploie cette image pour nous dire quelque chose, c'est bien comme ça que Dieu le voit. Et parfois, il y a des choses où, en lisant, on voit des choses qui nous amènent, mais c'est peut-être un peu plus subjectif. Donc, on va déjà commencer avec, on l'a entendu ce matin, un texte de l'Ancien Testament qui est repris dans le Nouveau Testament, le serpent d'airain. Donc, on l'a développé ce matin, le serpent d'airain dans le désert. Dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on trouve le serpent d'airain? Allez, ce matin, ceux qui étaient là pourront répondre facilement. Oui, mais pas ceux qui étaient là ce matin, justement. Je veux culpabiliser, déstabiliser. Non. Hein? Alors, non, dans le Nouveau Testament, où est-ce qu'on trouve le serpent d'airain dans le Nouveau Testament? Ça, c'est l'application. Effectivement, non, mais bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Nouveau Testament se sert de cette histoire de l'Ancien Testament pour nous parler de la croix. Bon, c'est Jean, chapitre 3, verset 14, effectivement. Et comme Moïse, donc on voit bien, on s'appuie sur une illustration ou une image, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Jésus n'était pas dans le désert, il n'était pas le serpent d'airain. C'est une semblance, une ressemblance, une image. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé et que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu, et c'est le verset qu'on connaît très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je suis surpris des fois que même les chrétiens citent ce verset-là, mais ils oublient le « car ». Parce que « car Dieu a tant aimé le monde ». On cite toujours ce verset et on le cite en oubliant le « car », en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a... » Et c'était très vrai et c'est très suffisant. Mais dans la pensée de Dieu, pourquoi se priver de l'illustration? Dieu a pris le soin de mettre une illustration avec un mot de liaison, « car », qui montre bien que l'un s'appuie sur l'autre. Donc, nous, on explique, et les gens comprennent ou ne comprennent pas, n'oublions pas d'utiliser l'illustration si on veut parler de la croix. Et expliquer ce texte, effectivement, de l'ancienne, dans le livre de l'Exode, le serpent d'airain, les serpents. Alors, je peux... Oui. Oui. Exactement. Voilà. Et pour rappeler l'histoire, je le fais très rapidement, mais donc, comme je l'ai dit ce matin, le peuple d'Israël dans le désert murmure, n'est pas content, regimbe, Dieu en a assez, il envoie des serpents brûlants qui mordent et ils en meurent. Et bien sûr, ce n'est pas le but de Dieu, c'était un châtiment, mais Moïse va intercéder et Dieu dit à Moïse, écoute, tu fais un serpent d'airain, tu le suspends à un poteau que tu élèves, et tous ceux qui regarderont au serpent d'airain suspendu seront guéris. Mordus, pas mordus, peu importe, les serpents sont toujours là, on ne les chasse pas, on ne les tue pas, on ne les combat pas, on regarde juste à celui qui est élevé. C'est ça l'évangile. On n'est pas là pour lutter, on est là pour regarder. Ah. Deuxième exemple. Donc celui-là, là, on est vraiment dans une image sûre, parce que le Nouveau Testament s'appuie dessus, d'accord ? C'est du solide. Deuxième image, là encore sûre, reprise par le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, 7, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, on a une affirmation catégorique qui nous renvoie à la fête de la Pâque, Pessah pour les Juifs, et qui dit Christ, il est notre Pâque. L'image est claire, c'est lui l'agneau qui a été... Et là, on reprend toute la symbolique de la fête de Pessah dans le judaïsme, Passover, où l'agneau devait être immolé, mettre de son sang sur les linteaux de la porte, sur les côtés en haut, ce qui fait penser quand même au point de la croix. Il fallait le manger, ce qui représente la foi. Il était un agneau sans défaut, comme Christ qui était parfait. Enfin, il y a toute une symbolique, on ne va pas développer. Mais là, vous pouvez y aller, aller sur le terrain de Pessah et voir toute la symbolique et vous dire « Christ, notre Pâque, a été immolé ». On l'a vu en bas tout à l'heure. On a fait au pied levé une étude ensemble sur le tabernacle. Là, je reprends l'épître aux Hébreux, Nouveau Testament encore. Hébreux 8, verset 5. « Il », donc là, il parle des Juifs, « il célèbre un culte, image », et là, c'est encore dit, « image et ombre des choses célestes », c'est-à-dire comme c'est là-haut dans le ciel, « comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle ». Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Vous le savez, sur la montagne, sur le Sinaï, Dieu avait donné les tables de la loi. Et on retient toujours, comme dans le film de Cécile B. 2000, il a les tables, il revient, il est en colère, il les casse, il remonte, il en a d'autres. Mais on a, c'est pas clair, le tabernacle en tout cas, on n'en parle pas. Alors que c'est une chose fondamentale. Alors plus qu'une promenade, mais oui, effectivement, c'était le tabernacle était toujours avec eux. Et pourquoi ? Parce que disait, le tabernacle était le Dieu au milieu de son peuple. C'est la présence même de Dieu. La Shekinah, la gloire, la présence même de Dieu, c'est le tabernacle. Donc ce n'est pas un détail, c'est « oh mince, on a oublié le tabernacle ». On retient tous les commandements, mais on a oublié le tabernacle. Non, c'est fondamental. Dieu au milieu de son peuple, savoir que Dieu par sa présence peut être au milieu de nous, c'est fondamental. Dieu veut être au milieu des siens. Tout à fait. Alors, on pourra faire plein de rapprochements, et je suis là pour ça aussi, pour faire les rapprochements, mais c'est très bien. Effectivement, nous sommes le temple, nous, du Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, quand on le reçoit, quand on l'a reçu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. J'ai beaucoup de choses, donc je vais essayer d'avancer. Le sacrifice d'Isaac par Abraham. Là, rien ne reprend très précisément pour nous expliquer la croix, mais quand même, c'est le Fils qui suit le Père et qui se laisse lier. Et il va être sacrifié. Et puis, finalement, Dieu arrête le bras. C'est l'ange de l'Éternel, en l'occurrence, qu'on verra tout à l'heure, qui arrête son bras et qui lui dit non. À la place, voilà le bélier, en l'occurrence, qui va être sacrifié. Et donc, il y a l'idée du fils qui va être sacrifié. Il y a le fils obéissant au père. Il y a le père qui veut un sacrifice mais pour Dieu. Mais à la fois, Dieu arrête et c'est l'autre. C'est le bélier qui va être sacrifié. Et le nom qui va être donné à cet endroit, c'est Jéhovah Jiré, Yahweh Jiré. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit pour nos sacrifices. Ce n'est pas nous qui allons faire des sacrifices. C'est lui qui a donné son fils. C'est le fils qui a donné sa vie. Alors, oui, c'est pas là, pour le coup, il n'y a pas écrit « image de », mais c'est quand même une image intéressante. Une dernière image, la vie de Joseph. La vie de Joseph, vous voyez des rapprochements entre la vie de Joseph et le Messie. Quel point de... Là, je vous laisse parler. Quel point on a qui peuvent nous relier l'un à l'autre. Essayez de penser à la vie de Joseph. Pourquoi pas, mais enfin, il est des 12. Donc, enfin, et d'ailleurs, même dans les 12, après, il y aura ses deux fils, Éphraïm et Manassé, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Non, dans la vie, tout bêtement, il a été rejeté. Il a voulu pardonner, il a voulu pardonner, et il a pardonné. Il a été vendu, voyez, trahi. Voilà, donc il me semble que dans la vie de Joseph, qui avait une vision où ses frères allaient se prosterner devant lui, la vision venue de Dieu, ben, les frères, ils ne veulent pas de lui, ils ne supportent pas cette idée, et ils le vendent. Et ça fait quand même penser à la personne de Jésus, qui est venu premièrement pour ses frères, les Juifs, mais qui l'ont en grande partie, pas tous bien sûr, mais beaucoup rejeté. Jean chapitre 1, verset 11, la parole, donc Jésus, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reçu, ça ne veut pas dire que tout Israël ne l'a pas reçu, la preuve. Tous les apôtres étaient juifs, il y a eu 3000 juifs qui sont convertis, qui ont cru en lui, mais en tant que nation, il n'a pas été reçu. Voilà pour le premier grand point, le Messie, j'ai appelé ça préfiguré, image préfigurée, Messie prophétisé. J'espère pas être trop long, vous êtes courageux, ça va? Vous allez tenir? Allez, on va. Là ça va être à peu près équilibré. Deuxième point, Messie prophétisé. C'est, je pense, des textes plus objectifs qui nous dirigent vraiment ouvertement vers le Messie. Est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est guerrier? Il est un peu tout ça, sa naissance. Alors là, c'est des versets, vous allez voir, vous les connaissez peut-être la plupart. Mais sa naissance, Ésaïe 7,14, le Messie. C'est pourquoi le Seigneur voudra, lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, ce qu'on a vu à peine effleuré tout à l'heure. Là, c'est clair. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. Emmanuel, là c'est la signification, Emmanuel, Immanuel en hébreu, qui veut dire Dieu au milieu de nous, on l'a vu tout à l'heure, Dieu parmi nous. Donc Jésus a tabernaclé littéralement, a habité au milieu des siens quand il est venu, mais là on a l'idée de la Vierge qui devient enceinte. Alors, si on rentre dans le débat, oui mais le mot Vierge en hébreu, c'est il y a Bethula et Alma. Et là, Bethula ça veut vraiment dire Vierge, et Alma ça peut vouloir dire Vierge et jeune fille. Et c'est vrai que là, c'est Alma, c'est pas Bethula. Donc on pourrait dire, ah, c'est pas sûr, peut-être que... Alors, admettons, je vous dis, je raisonne toujours comme quelqu'un pourrait raisonner. Oui, puisqu'il y a Alma, ça veut dire, c'est... Ben voilà, une jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Dieu dit, je vais vous faire un signe. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose qui retient votre attention, qui vous prouve que c'est moi qui vous parle. Une jeune fille tombe enceinte. Bon, promenez-vous dans la rue, hein. Vous allez en voir beaucoup des signes. Voilà, mais comment on sait que c'est surnaturel le signe là ? En l'occurrence, c'est qu'elle est vierge. C'est évident du contexte qu'il fallait que ce soit une vierge, pas une jeune fille, sinon personne ne verrait quoi que ce soit. Quand à la période dite de Noël, les gens, enfin, on raconte les histoires des bergers, des mages, enfin, ou des rois et tout ce que vous voulez. C'est évident que c'est un signe. Il y a un astre, effectivement, il y a l'étoile, mais quand même, c'est une vierge qui est enfantée. Voilà, le contexte nous le dit, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est de savoir que celui qui vient là, c'est Dieu parmi nous. Donc voilà un signe. C'est sa naissance. Michée 5,1. Vous connaissez, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Donc celui qui domine doit venir de Bethléem Ephrata. Pourquoi ? Petite entre les milliers de Juda. Le Seigneur ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça aurait été bien plus facile pour lui de s'affirmer comme Messie à Jérusalem. Non, il naît à Bethléem, un peu plus loin. Mais la suite du verset est importante, on y reviendra après, dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Petite entre les milliers de Juda, d'accord, mais celui qui vient va dominer sur Israël et il a des origines qui remontent aux temps anciens, on y reviendra. Parlant de sa naissance, Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Donc à la fois, il est question d'un fils, un enfant. Donc là, pour dans le judaïsme, cette pensée que le Messie, c'est peut-être une ère de paix, non, c'est bien un être humain qui doit venir, un fils, un enfant. Et à la fois, la domination reposera sur son épaule, donc il va régner. Et à la fois, on y reviendra après, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, on va revenir là-dessus après, quand on parlera de sa nature. Là, on parle juste de sa naissance. Donc, un enfant qui va être le Messie, c'est un homme. À quoi on va le reconnaître ? Ses œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire de spécial pour prouver qu'il est le Messie ? Mon épouse avait fait un petit... Quand on était à l'Institut... Non, c'était Vincent qui avait fait... Ouais. Tu te rappelles de ton traité là-dessus ? Toi, c'était « Il marche et il ne se fatigue pas ». Et Vincent avait fait la carte d'identité du Messie, montrer des versets qui détermine qui est le Messie. Mais parmi les choses qui vont nous permettre de reconnaître le Messie, sa carte d'identité, Ésaïe 35,4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe, c'est le prophète messianique par excellence, hein, du début à la fin, c'est que des références messianiques. Là, ça dit que c'est Dieu lui-même. Mais quand on demande à Jésus, quand Jean-Baptiste est emprisonné, et Jean-Baptiste dit, mais il n'était pas au clair, Jean-Baptiste. Hein. Il a prophétisé, il a prêché, il a fait plein de choses. Mais quand Jésus était là, il n'était pas sûr. Et il a envoyé de ses disciples vers Jésus pour dire, tu es le Messie ou tu n'es pas le Messie ? La réponse de Jésus, c'est de citer ce verset-là. Répondez à Jean le Baptiste, des aveugles voient, des boiteux sautent comme un cerf. C'était la réponse pour dire catégoriquement, t'inquiète Jean-Baptiste, je suis bien le Messie, la preuve, ce sont ces œuvres-là. Le boiteux, l'aveugle qui voit, le boiteux qui saute, la langue du muet qui éclate de joie. Voilà, donc ça c'est le Nouveau Testament qui le confirme. Jésus a fait tout ça, indiscutablement. Zacharie 9,9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Comment le roi doit-il venir ? Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Qui me dit la suite ? Il est humble et monté sur un cheval bucéphale, sur un éléphant comme Hannibal, non, sur un âne. Voilà comment le roi rentre dans Jérusalem sur un petit ânon. Parce qu'il est humble, il est à la fois roi, mais Jésus vient humblement. C'est une des prophéties, vous savez, quand on dit les Hosanna, quand à Marseille, on distribue les branches dans le catholicisme, les branches de l'olivier, pour cette période-là, les Hosanna, c'est censé représenter ce moment où Jésus rentre dans Jérusalem et où on met des... Ce n'est pas des branches d'olivier en l'occurrence, hein, c'était plutôt de palmiers ou de sortes de choses qui sont là-bas. Quoi qu'il en soit, d'autres références, bien sûr, mais pour faire court, maintenant, on va parler de sa nature. Alors, est-il juste un homme ? Est-il Dieu ? Est-il les deux ? Parler de la nature de Jésus, c'est compliqué. C'est compliqué, mais à la fois, la Bible le dit. Elle ne nous demande pas nécessairement de comprendre comment Dieu fait pour qu'un homme soit à la fois homme et Dieu. Ésaïe 7,14, on l'a déjà lu. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. C'est bien un homme, mais on l'appelle du nom d'Emmanuel. C'est un homme, mais c'est à la fois Dieu parmi les hommes. Alors on peut dire oui, on veut dire par là de manière symbolique. Enfin, Dieu répète un peu plus loin, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Michée 5,1, on l'a vu tout à l'heure, Bethléem Ephrata, celui qui dominera sur Israël, et là je m'appuie un peu là-dessus, dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Qui peut dire parmi nous que nos activités remontent aux temps anciens et aux jours de l'éternité ? Au mieux, vous remontez à 70 ans, 80 ans, mais aux jours de l'éternité ? Qui peut dire « Ah, j'étais actif aux jours de l'éternité parmi nous ?» Même si vous connaissez quelqu'un qui a 150 ans, ce n'est pas les jours de l'éternité. Il faut bien qu'il soit éternel. Voilà le Messie dont il est question. Et on l'a vu aussi tout à l'heure, Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et là, voyons la liste des mots, on l'appellera admirable. Alors, il y a des gens qu'on trouve admirables au football. Messi, ce qu'il fait, c'est incroyable, sans eux. Là, mais après, conseiller, moi, je n'irai pas poser une question à Messi sur la vie, hein, Dieu puissant. Là, non, là, ça va trop loin, on s'arrête là. Il n'y a personne dont on peut dire Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné, il est ça. Donc ce n'est pas un homme normal, ce n'est pas même un homme supérieur, ce n'est même pas un homme merveilleux, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être appelé comme ça, Dieu puissant, Père éternel. Il faut qu'il soit éternel, il faut qu'il soit Dieu. Voilà. Il y a d'autres textes qui le confirment. Dans le psaume 2, on ne va pas le lire, c'est un peu long, mais ça dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Et un peu plus loin, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, embrassez ou prosternez-vous devant le fils de peur qu'il ne s'irrite. Le psaume 2 établit que Dieu a un fils et qu'il faut l'adorer, qu'il faut le craindre. Sa colère est prompte à s'enflammer. Ce n'est pas le petit Jésus. Oh, qu'il est mignon. Non, le Messie qui vient, il est prompt à s'enflammer et heureux tous ceux qui se confient en lui. voyez, même l'image qu'on veut donner de Jésus, celui qui aime les enfants, c'est vrai. Celui qui accueille tout le monde, c'est vrai. Celui qui veut faire du bien, c'est vrai. Mais il est aussi celui qui va régner. Quand vous lisez dans l'Apocalypse la description qui est faite de lui aujourd'hui dans les cieux, il faut pas trop s'approcher, à moins qu'on soit vraiment de son côté, de ceux qui se confient en lui. Si on le refuse, si on le méprise, si on se moque de lui. Proverbe 34, on a vu ça aussi ce matin, qui est monté, 30, chapitre, verset 4, qui est monté aux cieux, qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Là, on voit la création, non ? Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Il nous pose la question. Si on vous dit, si Dieu a un fils, quel est son nom ? Et quel est le nom de son fils ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Quel est son nom ? À Dieu ? Mais c'est le nom du fils. Mais le nom du père, on l'a dit tout à l'heure. C'est le tétragramme. Dieu se présente comme Yahweh, Jéhovah, mais traduit par l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est pas Allah, c'est l'Éternel, c'est ça son nom. Alors après, on peut dire Dieu, pour se simplifier la vie, mais justement, Dieu, il faut faire attention à ce que ça veut dire. C'est un mot, on pourrait dire Seigneur, Adonai, dans le judaïsme, Adoshem, pour pas dire Adonai. On ne veut pas prononcer, de peur de blasphémer, on ne veut pas prononcer le nom de Dieu, d'accord. Mais il faut quand même le connaître, à défaut de le prononcer, il faut savoir qui il est. C'est bien le Dieu de la Bible, qui s'appelle comme ça, qui se présente comme ça. Au buisson ardent, c'est bien le nom par lequel Dieu s'est présenté. Et on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, on a vu sa naissance, ses œuvres, sa nature. Qu'est-ce qui manque de fondamental à tout ça, au tableau du Messie ? Ses œuvres, on l'a vu, mais une œuvre en particulier, la croix, son sacrifice. Est-ce que c'est les chrétiens qui ont inventé cette idée, ou est-ce qu'elle est clairement établie par l'Ancien Testament ? Psaume 22, avec une description de la scène qu'on connaît. « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que Jésus dit à la croix. Ça, c'est le psaume 22 qui le dit. Un peu plus loin, je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Deux questions. Vous êtes crucifié. Est-ce que c'est un moment où vous dites, tiens, je vais citer des versets, histoire de les convaincre que c'est moi le Messie ? Quel intérêt, là, alors que vous êtes en train de mourir, vous avez à convaincre des gens que vous êtes le Messie ? Enfin, qui pourrait, dans de telles atroces souffrances, avoir l'idée de, tiens, je vais leur citer des versets ? Il est en train d'accomplir la volonté du Père, mais dans la souffrance réelle, il se sent réellement abandonné du Père, parce que là, comme on l'a vu tout à l'heure au serpent des reins, il porte nos péchés, ben son Père, qui ne supporte pas, qui ne peut voir le péché, se détourne de lui. Eux qui éternellement étaient en communion, en relation affectueuse et intime, à ce moment-là, le Père se détourne. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un qui vous aime se détourne de vous ? S'écarte, à ce moment-là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, dans son humanité, bien sûr, c'est un cri de ressenti, mais juste avant, à Gethsémané, il était tout à fait conscient, il a toujours été omniscient, il est Dieu lui-même, tout en étant fils, tout à fait conscient de quelle était sa mission, quelle serait le coup réel, quand il a dit « S'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté se fasse, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il n'a pas été surpris. Je crois vraiment qu'à la fois, peut-être on peut dire son cœur humain ne comprend pas, mais il savait très bien du début à la fin, même dans son enfance, quelle était sa mission. Il savait très bien, il a essayé même de la transmettre aux disciples qui, eux, ne voyaient que le règne terrestre. lui était lucide là-dessus, il fallait qu'il souffre, exactement comme ça. Il est la parole. Donc ces versets qu'on a lus, il en est l'origine même. C'est lui qui... Donc il sait. Il sait. Peut-être dans son humanité, il y a quelque chose de... Mais je crois que le Père, là, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, ça c'est une affirmation qui le dit, quand il est fait péché, oui, il s'est séparé parce que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Et il fallait bien qu'il soit séparé. Bon, là c'est de la perception tout ça. Mais là je pense, personnellement je suis convaincu que le Fils savait très bien que... Et que là, le Père, qui a dû... on va le lire juste après. Il y a l'explication après, dans Ésaïe 53. Lisons l'explication, si vous voulez bien. C'est sa parole qui est vivante. Tout à fait. C'est la fonction de la parole. Alors, moi, je dirais plus simplement, bon, on peut trouver tout ça, mais rappelons-nous simplement ce que Dieu en dit. C'est le terrain sûr. Justement, voilà ce que Dieu nous dit. On peut se fier après notre compréhension. Ésaïe 53, en tout cas, nous précise. Là, on a la description de la scène avec le psaume 22. Mais Ésaïe 53, donc pour les Juifs et pour tous, nous explique ce qui est en train de se passer, en l'occurrence. Et là, on vient au verset 3 à 6. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais 3 à 6. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà ce qui s'est passé. Voilà l'explication de Dieu sur ce qui se passe à la croix. Ma grand-mère, qui était bien sûr ashkénaze juive, sur son lit peu de temps avant de partir, elle m'a dit « Mais pourquoi on lui a fait ça ?» À la fois, quelque part, on peut dire « On lui a fait, mais surtout, il est venu pour ça. » Il a dit, on ne me prend pas ma vie, je la donne. Il connaissait le terrible de ce qu'il devait subir, mais il en était tout à fait conscient. Et c'est en connaissance de cause qu'il est venu, qu'il a accepté et qu'il a accompli ce qu'on vient de lire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris la colère du Père. Quand il y a eu des ténèbres sur la terre pendant 3 heures, le mot ténèbres là est bien plus qu'une absence de lumière. C'est-à-dire qu'on n'y voyait pas. C'est un peu comme à la Pâque, quand on dit que l'ange destructeur passe au-dessus. Là, il y avait une obscurité telle que ce n'était pas une obscurité de la nuit. Où vous pourriez utiliser une chandelle. C'était les ténèbres. Les lumières naturelles ne passent pas, ne rayonnent pas. Ça, c'est les ténèbres. Et ces ténèbres-là, c'est le péché de l'humanité. C'est la nuit de la colère de Dieu qui s'abat sur nous, sur lui, pardon. Et c'est à cet instant-là que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que nous n'ayons pas à subir quoi que ce soit que nous méritions, le châtiment, à cause de nos péchés, ben c'est tombé le Père et le Fils, comme on a vu Abraham tout à l'heure et son fils. Le Père et le Fils, d'un même accord, ont accompli ça. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu l'a donné. Et le Fils a donné sa vie. L'un et l'autre donnaient ce qu'ils avaient de plus grand et de plus précieux. Donc, pour le judaïsme maintenant, on va dire, bon, d'accord, je suis juif, j'ai compris, j'accepte plus ou moins que le Messie, il est Dieu et homme. Enfin, le sacrifice expiatoire, d'accord, d'accord. Mais d'où ça sort, ça? C'est pas pour les juifs. C'est Dieu nous a donné la loi, à nous, les juifs. Qu'est-ce que c'est ces versets? Pourquoi il y a ça? Dieu nous dit, ne t'inquiète pas. Jérémie 31, je vais te dire quelque chose qui résout tout. Verset 31, c'est Dieu qui parle à Israël, qui ne parle pas aux gentils, il parle à Israël. Et il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est Dieu qui le dit. Il y en aura une nouvelle. Il y a la loi, mais Dieu lui-même dit il y en aura une nouvelle. Et il explique au cas où on dit oui, mais qu'est-ce que c'est cette alliance ? Non, écoutons. Non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Voilà, c'est Israël, hein, et c'est bien la loi que Dieu a donnée sur la montagne. Alliance qu'ils ont violée. Alliance dont on s'inspire, alliance dont on parle, mais que je n'ai jamais rencontré personne qui peut me dire j'ai fait tout ce qu'il y a dans la loi. Ni juif, quelle que soit la tribu, quelle que soit la piété des uns ou des autres, Ashkenaz, Sépharad, vous prenez n'importe... J'ai jamais, comme je ne rencontre jamais un musulman qui peut me dire j'ai fait tout ce que... Tout le monde défend de dire c'est nous qui avons raison, alors donc, tu es sûr d'aller au ciel? Ben non, parce que j'ai la bonne voiture, mais je ne peux pas la conduire. J'ai la bonne religion, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que c'est ça? Alliance qu'ils ont violée. Et nous, aujourd'hui, si on nous donnait la loi, si vous voulez convertir au judaïsme, ben, préparez-vous à une sacrée déconvenue. Parce que dès le premier commandement, hop, vous pouvez arrêter tout de suite. Ne vous donnez pas une heure avant de la transgresser. Premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ah oui, mais moi, je t'aime, oui. De tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. J'ai discuté avec des frères messianiques, juifs, qui ont fait un repas de Shabbat et tout ça, et qui revenaient à la loi. J'ai dit, mais quand même, par la loi, on arrive toujours à une impasse. On n'y arrive pas. Oh, si. Tu peux dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Ah oui. De toute ta pensée? C'est-à-dire, il n'y a pas une pensée qui traverse ton esprit qui ne serait pas ce que Dieu veut? De toute ta force, c'est-à-dire avec ton corps, tout ce que tu fais est toujours pour Dieu. Arrêtons. C'est le premier commandement. Donc si on a échoué au premier commandement, mais évidemment que la suite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allez, ce matin, je parlais de batte de baseball quand on nous fait des coups de poisson. Mais bien sûr que chacun de nous, à des moments, on a des mauvaises pensées. Il y a des choses qui nous énervent ou on énerverait bien, on étranglerait bien quelqu'un. Alors, vous voulez marcher selon la loi? Eh bien, alors vous allez échouer. J'ai essayé un jour. Quand je cherchais à être en relation avec Dieu, je savais que ça, je ne faisais rien de bien, mais une nuit, j'ai compris, j'ai eu la Bible entre les mains, j'ai dit, bon, à partir de maintenant, je vais faire que des choses bien. J'ai même brûlé ma main avec un mégot de cigarette pour sceller. Non, mais bon, quand vous voulez sceller une alliance... Alors moi, je me suis brûlé la main avec un mégot, enfin brûlant, hein, je me suis fait un truc noir là, qui a duré des semaines au milieu de ma main. En disant à Dieu, voilà, c'est pour te montrer qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demandes. J'ai fait une liste, là, avant de me coucher, une liste de choses que maintenant, je ferai ou je ne ferai plus. Lendemain matin, 9h du matin, allez, on met tout à la poubelle. On n'est pas parfait. Aucun d'entre nous. C'est pour ça que Dieu dit dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas un homme juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un, cherchez pas. Oui, mais la mère, un tel, ou l'abbé truc. Ne parlons pas de ça. Personne n'est parfait. Sauf Jésus. Jésus. Et c'est parce que lui est un agneau parfait, sans défaut, qui va pouvoir prendre sur lui nos péchés et payer à notre place. Si vous avez des dettes vous-même, vous ne pourrez pas payer les dettes des autres. La nouvelle alliance, c'est ça. Alliance qu'ils ont violée et que nous allons tous violer si nous essayons de marcher par elle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. La loi est toujours bonne, mais maintenant, elle n'est plus un fardeau écrasant, elle est en nous. Il y a des choses qu'on fait volontiers, pas naturellement, mais je mettrai la loi au milieu d'eux, en eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Là, il est question maintenant d'une relation. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas si tu ne fais pas ça, je vais te châtier. Non, maintenant, je suis avec toi, tu es avec moi, on marche ensemble. Et celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Une relation. Tout à l'heure, on a vu dans le tabernacle, en fait, il y en avait quelques-uns, les Lévites, qui rentrent sur le parvis, et de temps en temps, peut-être le lieu saint, mais il y en a un seul qui rentre une fois par an dans la présence de Dieu. Et là, Dieu dit, avec la nouvelle alliance, « Tous me connaîtront. » Relation personnelle. Quelle que soit notre race, quel que soit notre sexe, quel que soit notre âge, on peut connaître Dieu, avoir cette relation, ce lien, cette intimité, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Point de départ de la nouvelle alliance, c'est plus de dire fais cela et tu vivras, c'est je pardonne tes iniquités. Puisque tu n'arrives pas, Dieu le savait, mais il fallait qu'on arrive à cette conclusion qu'on n'y arrive pas. Qu'on arrive enfin à cette reddition, ce dépôt des armes, de dire je suis vaincu. Et là, le Seigneur vient à notre rencontre et il dit je pardonne, je fais grâce. Tant que vous voulez payer, ben, essaye de payer, tu verras. Essaye de faire des œuvres, essaye d'être ci, essaye d'être ça, essaye de faire ça. Fais ta propre liste sans te brûler la main. Et essaye. Et quand tu vois que tu n'y arrives pas, tu fais appel à la grâce de Dieu. C'est dans la faiblesse, mais c'est aussi dans l'abandon. Oui, ça c'est dans la marche chrétienne. Mais pour le salut, c'est par la grâce, de savoir que c'est une grâce, qu'on n'a rien à apporter. C'est un cadeau. La vie éternelle, le pardon, on le reçoit comme un cadeau ou on ne le reçoit pas. Et je termine. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je termine avec le Messie manifesté. Là, ça sera très court. Parce qu'on pourrait voir beaucoup de références, mais on va voir juste une. En tant que chrétien et en tant que juif, je suis en train de lire ma Bible. Et je suis dans le livre des Actes. D'accord ? Et il y a un certain Étienne qui prêche et qui fait tout un survol de l'histoire d'Israël. Et je vous lis au verset 29, alors si je me trompe, non c'est Étienne, hein, c'est ça. Je vous lis ce verset. Et je vous assure, quand je l'ai lu, alors que je l'avais lu des dizaines de fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Et je suis surpris combien, presque systématiquement, quand je demande aux chrétiens ce que, entre guillemets, j'ai vu ce jour-là, et que vous allez voir aussi, tous me disent « Ah, mais je n'avais pas fait attention, tiens, vous allez voir ». Acte 7, 29, à cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est la scène du buisson ardent qui ne se consume pas alors qu'il y a une flamme. Et là, c'est Dieu qui parle. Enfin, c'est manifestement Dieu qui parle. Et on a vu des films ou des dessins animés où on voit le feu et on entend la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on a raté dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'on a raté de fondamental ? C'est vraiment comme les lunettes sur le nez, quoi. Ça, on connaît tous. Oh, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. On n'a pas raté ça. On a compris que là, c'est quand Dieu est là, la terre est sainte. Qu'est-ce qu'on a raté ? L'ange, dans tous les films que j'ai vus, films d'animation, tout ce que j'ai lu, on voit toujours le buisson qui brûle, Moïse qui s'approche, la voix qui parle, et Moïse se voile le visage parce que c'est Dieu qui est là. Qu'est-ce que j'ai lu ? 40 ans plus tard, un ange lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Il est étonné de l'apparition, et quand Dieu est là, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. La voix, c'est bien celle du Seigneur, mais c'est un ange qui apparaît. Alors, je me remets dans le contexte, je suis chrétien, mais je suis juif toujours dans mes réflexes. Je me dis, oui, mais attends, ça c'est le Nouveau Testament qui le dit, c'est Étienne. Est-ce que les chrétiens, ils n'ont pas rajouté ça pour prouver un peu ce qu'ils veulent, pour dire que c'est un ange ou je ne sais quoi ? Je me pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va voir le texte d'origine, dans l'Exode. Là, je vais sur le terrain solide du judaïsme, l'Exode. Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert, il y a plus de détails. Hein, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Vérifiez toutes les versions que vous voulez. Au milieu d'un buisson. Et encore plus fort. même le livre de l'Exode est encore plus fort que celui des Actes. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est bien, on le lit dans ce texte, l'ange de l'Éternel qui est au milieu du buisson en feu. C'est bien l'ange qui est là, et c'est du milieu du buisson en feu que l'Éternel parle. Qu'est-ce qu'on conclut ? Qu'ils étaient tous les deux bras dessus, bras dessous ? Qu'est-ce qu'on conclut de ce texte-là ? D'abord que c'est bien l'ange qui est là, dans les deux textes, actes, et ce qu'on n'avait peut-être pas vu, ce que les films ne voient pas, ce que le judaïsme et beaucoup de chrétiens n'ont pas vu pendant des années, c'est l'ange de l'Éternel qui est là et qui parle, qui l'appelle, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on conclut ? Mais que l'ange de l'Éternel est bien divin. On est surpris de ça avec les versets qu'on a vus tout à l'heure. Dieu parmi nous, Emmanuel, c'est Dieu qui est là. On n'est pas surpris, c'est Dieu. Le Fils est Dieu et le Père est Dieu. Là, on rentre dans Père, Fils et Saint-Esprit. Mais déjà là, on établit avec ces textes-là que l'ange de l'Éternel, déjà à l'époque, était bien là. Et je crois, et là, à partir de ces textes-là, je vous donne, pour ceux que ça intéresse, j'ai une quantité de références chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel. Non, les anges sont des créatures. Ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est le Fils. Il est particulier. Et c'est pour ça qu'après, dans l'Épître aux Hébreux, il y a tout cet argumentaire de dire il est plus qu'un ange. Il est bien plus qu'un ange. Il n'est pas un ange comme les autres. Il n'est pas de la nature. Non, puisqu'on a vu tout à l'heure, les anges ont été créés. Donc créés, ont commencé, ne sont pas éternels. Alors que le Fils est éternel. Et pourtant, l'expression ange, ça veut dire quoi ? Ça veut dire envoyé. L'ange, c'est l'envoyé, émanation d'eux. Ben, le Fils vient du Père. Et c'est toujours, il a toujours été la manifestation, l'émanation du Père. Ne soyons pas trop compliqués, ce que je veux dire par là, réfléchissons, d'accord ? Mais j'aime bien, j'ai appris, comme je suis juif, des fois j'étais un peu compliqué, mais maintenant j'ai appris au contraire à chercher à être le plus simple possible. Retenons déjà l'affirmation qu'on vient de lire de manière catégorique. L'ange de l'Éternel, manifestement, parle comme Dieu et il est dans le buisson et c'est lui qui parle du buisson. On s'en tient à ça pour l'instant. Tu peux rentrer. Dina, tu peux rentrer, tu es bienvenue. Il n'y a pas de souci. C'est toi. Tu as cherché longtemps ? Oh, désolé. C'est pas grave. Bon, c'est enregistré, comme ça, ce que tu n'as pas pu assister, tu pourras le... Bienvenue. C'est notre voisine qui organise beaucoup de choses dans la communauté israélite. Donc c'est la conclusion, tu arrives au moins pour la... C'est pas grave, ça, sois pas désolé. Donc l'ange de l'Éternel, on a toute une quantité de versets, on le retrouve avec la scène avec Agar, on le retrouve, c'est Genèse 16, 7 à 13, Genèse 22, c'est l'ange de l'Éternel encore avec Abraham et le sacrifice prévu d'Isaac, on le retrouve dans Exode 3, Moïse et le buisson ardent, c'est ce qu'on vient de lire, on le retrouve avec Balaam et l'ânesse, on le retrouve avec Gédéon dans le livre des Juges, on le retrouve avec Manoah dans le Juge chapitre 13, on le retrouve à la dépression de Élie, on le retrouve avec le jugement de Jérusalem, 1 Chronique 21, protecteur des siens, jugement des ennemis d'Israël, Zacharie 1 et Zacharie 3, dans la présence même de céleste du trône de Hachem. Voilà, donc Dieu manifesté, je ne voulais pas être trop long, mais il y a de la matière si on avait envie d'étudier ça. Prenez les références si vous voulez vérifier. Vous verrez, c'est impressionnant quand même à chaque fois que l'ange de l'Éternel est là, il parle comme Dieu. C'est lui qui prend et consume les sacrifices, c'est lui qui répète dans le livre des Juges, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Enfin, l'ange de l'Éternel ne peut pas être juste un ange comme les autres. Voilà, on a vu maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ? Allez, pour voir les trois chapitres. Premier chapitre, on a vu... C'est pédagogique hein, de faire ça, sinon on oublie tout en quelques minutes. Le Messie préfiguré, en image, en allusion. Ensuite, le Messie prophétisé, donc des choses qui montre son lieu de naissance, qui montre sa nature, qui montre ses qualités, son œuvre, l'œuvre expiatoire et tout ça. Donc on a vu tout ça, tous ces versets. Et puis le dernier, le Messie manifesté. C'était bien de le voir. C'est moins habituel de parler de ça, mais c'était bien de voir que déjà, à l'époque, il était là. Ce n'est pas une apparition, tiens, il y a 2000 ans, avant il n'existait pas. Si, il existait. C'est la conclusion. Je vous ai promis le dessert. Alors, il y a deux desserts. Le premier dessert, il est chanté. Excusez-moi, je pose ça. Et je vais quand même enlever le micro, sinon je ne vais pas y arriver.